Mesdames, Messieurs, Madame Blandine Malébricou et moi-même avons le plaisir de vous retrouver pour la quatrième conférence du cycle qui est consacrée à la liberté d'expression au XXIe siècle, regards sociétaux et défis juridiques. La conférence d'aujourd'hui constitue le second volet d'une réflexion qui a débuté lors de la conférence du 14 décembre dernier. Leur thème commun, la liberté d'expression en conflit. La précédente conférence a permis de poser les lignes directrices des conditions d'apparition et de résolution des principaux conflits qui se nouent autour de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Droit civil et droit pénal ont été les matrices de cette réflexion qui nous a permis d'évoquer les conflits classiques entre divers droits tels les droits de la personnalité et la liberté d'expression, mais aussi, plus novateur, le contrôle de proportionnalité in concreto mené par le juge pénal au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Beaucoup de questions fondamentales furent alors abordées. Mais le droit est désormais si complexe en la matière qu'une autre conférence s'imposait pour continuer de creuser le sillon de la réflexion sur des terrains plus particuliers, où le contentieux, peut-être moins développé dans certains de ses aspects, mérite justement d'être observé de près. Précisément, la réflexion du jour nous invite à développer d'abord le thème de la liberté d'expression artistique face au vent contraire. Puis un tout autre domaine sera exploré, celui de la liberté d'expression dans l'entreprise, où le droit commercial et le droit social ont beaucoup à nous apprendre. La palette très large des sujets abordés aujourd'hui est reflétée par le nombre relativement important d'intervenants éminents spécialistes de ces domaines. Je laisse Madame Blandine Malébricou vous les présenter.
Alors pour servir donc ce beau programme, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette conférence des spécialistes donc des questions qui seront abordées, magistrats, universitaires et membres de la société civile, comme c'est l'usage, vous le savez, pour ces conférences dans le cadre de ce cycle. Du côté des magistrats, qui sont présents en nombre pour cette conférence, le parquet général de la Cour de cassation sera particulièrement représenté cette fois, mais aussi le siège avec l'intervention sur les problématiques de droit social de Madame la conseillère doyenne à la Chambre sociale Sabine Mariette, aux côtés donc de Mesdames Anne-Marie Grivel et Sylvaine Lollon, respectivement avocate générale et avocate générale en service extraordinaire dans cette même chambre. Sur les thèmes relatifs à la liberté d'expression dans l'entreprise, interviendront quatre avocats généraux, Monsieur Jean Le Carrose, avocat général à la Chambre commerciale, Mesdames Caroline Henry et Marie-Liès Guinamant, respectivement avocate générale en service extraordinaire et avocate générale référendaire dans cette même chambre, et enfin Monsieur Renaud Salomon, avocat général à la première chambre civile et professeur associé à l'Université Paris-Dauphine PSL. Mais nous allons dès à présent aborder un premier thème consacré à la liberté donc d'expression artistique face au vent contraire, avec en premier lieu l'intervention de Monsieur Édouard Trépose, qui est professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de propriété littéraire et artistique et de droit international privé. Puis nous aurons une courte intervention de Madame Agathe Lepage, qui est professeure donc à l'Université Panthéon-Assas, spécialiste de droit pénal et de droit des personnes, et qui est mon indispensable complice pour l'organisation de ce cycle. Je poursuivrai ensuite et nous entendrons enfin les réactions de Monsieur Guillaume Desanges, président du Palais de Tokyo, une institution bien connue, chargée d'une mission de service public culturel et qui a pour objet de mener toute action relative à la promotion de l'art contemporain. Il est en outre prévu pour chaque panel un temps de questions du public ou de réactions des intervenants. Alors évidemment, je remercie très sincèrement et très vivement l'ensemble des intervenants de cette conférence pour leur présence et la préparation en amont. Et je laisse immédiatement la parole au professeur Trépose pour lancer donc le premier thème.
Merci beaucoup, Madame l'Avocate Générale, et merci, chers collègues, pour cette invitation. Je suis très heureux et impressionné d'intervenir en ce cadre pour parler de la liberté d'expression artistique face au vent contraire. Alors, en apparence, la liberté artistique semble dominer ces vents contraires dont on nous parle. Si on prend pour point de départ la loi de 2016, loi relative à la liberté, à l'architecture et au patrimoine, dont l'article 1er proclame « la création artistique est libre ». Donc en apparence, certes, la liberté artistique est libre. Pourtant, la réalité est plus complexe. Elle est plus complexe pour des raisons juridiques et aussi pour des raisons factuelles liées à l'application du texte. Juridiquement, d'abord, nous parlons d'une loi. Une loi proclame la liberté artistique. Mais ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire. Et nous savons qu'une loi est soumise notamment à une convention internationale. Donc une convention internationale pourrait limiter cette liberté artistique qui, nous dit-on, est libre. Et puis, factuellement ensuite, le problème ne provient pas tant de la création artistique que de la diffusion de cette création. Et la loi ne dit rien sur la diffusion. Donc l'artiste serait libre de créer, mais il ne pourrait pas diffuser. Et la réalité, c'est que les points de tension s'expriment au moment où cette œuvre doit être diffusée. Donc la réalité semble distincte de la liberté faussement proclamée par cette loi, peut-être aussi distincte de ce que le doyen Carbonnier appelait dans un article anciennement, il nous parlait de l'oubli en matière d'art. Et la réalité, eh bien la réalité, nous le savons, la réalité est judiciaire. En France et aux États-Unis, en 2023, les cours suprêmes ont rendu 3 décisions dont l'enjeu n'était autre que la liberté artistique. En France, après un contentieux particulièrement long, la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité du FRAC Lorraine pour avoir exposé des œuvres d'Éric Pougeot au sein de l'exposition Infamie de 2008. Le Conseil d'État, pour sa part, dans le cadre d'un référé liberté, a dû se prononcer sur une œuvre de Myriam Kahn, considérée par certains comme pédopornographique. La même année, aux États-Unis, la Cour suprême devait se prononcer afin de savoir si Andy Warhol, était ou non un contrefacteur. On est donc bien loin de l'oubli, on est loin de la liberté et on voit qu'il y a une réalité d'un risque contentieux. Alors, seule la Cour suprême rendra une décision défavorable à la liberté de création. Mais au-delà du contentieux, le climat aussi dénote une ultra-sensibilité à certains contenus. Hier, le lecteur pouvait se délecter des albums Ralovli de Gottlieb, des aventures Rox et Rox de Liberator. Aujourd'hui, trouver Petit Paul, c'est compliqué. Hier, un ministre de la Culture se battait pour qu'un livre, Rose Bonbon, ne soit pas interdit aux moins de 18 ans malgré la sexualisation du propos. Aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur se réjouit qu'un autre livre avec des scènes littéraires sexualisées mais écrits pour des adolescents soit interdit, bien trop petit, interdit aux mineurs. Donc les limitations existent et leur usage, le risque de leur usage se démultiplie. D'où proviennent ces limitations ? D'abord, nécessairement, ces limitations proviennent, limitations à la création, de la protection des droits d'autrui. Dans l'affaire Andy Warhol, ce qui est en cause, c'est un photographe, Lynn Goldsmith, qui revendique légitimement son droit sur sa photographie. Protection des droits d'autrui dans une affaire décidée en France, la compagne d'un journaliste célèbre, Patrick Poivre d'Avoire pour ne pas le citer, revendique légitimement aussi ses droits à la personnalité lorsqu'elle se considère comme reconnaissable dans un roman de Patrick Poivre d'Arvor. Et puis, les limites peuvent aussi provenir de l'ordre public. L'on pense, et nous aurons des précisions très utiles sur ces articles, aux articles 227-23 et 227-24, qui incriminent la pédopornographie et la pornographie lorsqu'elle est accessible aux mineurs. Il faut ajouter toujours, par rapport à l'ordre public, les infractions de diffamation et d'injure, et on sait qu'elles peuvent porter sur un groupe en raison de leur origine, de leur appartenance, de leur race, de leur religion ou de leur liberté artistique. Et puis, peut-être aussi, le concept de dignité pourrait venir justifier une telle limitation, cela dépend où l'on se situe, nous en entendrons parler après. Ces limitations sont donc connues, elles s'appliquent. Mais la question qui nous intéresse est de savoir comment doivent-elles s'appliquer lorsqu'est en cause la liberté artistique. La certitude qui provient de la Cour européenne des droits de l'homme est sans doute qu'il faut accorder une attention particulière, nous disent les juges européens, une attention particulière à la création. Et alors, deux questions émergent. En premier lieu, comment se manifeste cette attention particulière accordée à la création? Et en deuxième lieu, pourquoi? Pourquoi cette attention particulière? Cette attention particulière attachée à la création entraîne deux conséquences distinctes dont témoigne l'étude de la jurisprudence des juridictions du fond le plus souvent. La première conséquence induit une approche renouvelée du contrôle de proportionnalité, approche renouvelée parce que la liberté de création pèse d'un poids particulier. Seconde conséquence de cette attention particulière, plus radicale, c'est peut-être la disparition même de l'incrimination. Le contrôle de proportionnalité d'abord, la disparition de l'incrimination. Ensuite, cette mise en œuvre distincte du principe de proportionnalité a été clairement exprimée par les juges lorsqu'est en cause d'un côté les droits de la personnalité et de l'autre la liberté de la création. Voici un artiste photographe qui prend une photographie dans la rue et de ce fait reproduit l'image d'une personne sans son autorisation. L'atteinte aux droits de la personnalité est évidente. Pour autant, sanctionner de telles photographies pourrait sonner le glas de tout un pan de l'art photographique, William Klein, Robert Doisneau. Et donc, cette attention particulière suppose alors peut-être de faire primer la liberté de création pour immuniser certaines atteintes qui sont réelles, mais qui ne sont pas suffisamment importantes. Et le contentieux de l'autofiction montre très bien que lorsque ce sont des atteintes mineures, le contrôle de proportionnalité est valide, mais attention, lorsque l'atteinte alors à la personnalité touche à l'intime, et particulièrement à la sexualité, la liberté de création ne peut justifier le balancier du contrôle de proportionnalité, justifie l'incrimination. La proportionnalité semble aussi à l'œuvre dans la décision du Conseil d'État, dont on nous parlera plus longtemps et mieux, lorsque le Conseil d'État sur cette affaire Myriam Khan nous dit « L'ensemble des éléments contextuels permet de conclure que l'accrochage ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ou à la dignité de la personne humaine. » Les éléments contextuels. L'atteinte existe, mais le contexte exclut de la sanctionner. Récemment, une affaire de satire où les juges portugais ont condamné cette satire. La Cour de Strasbourg nous dit « Attention, vous n'avez pas suffisamment pris en compte le contexte dans lequel s'inscrivait cette satire. » On voit donc que l'attention particulière accordée à la création peut permettre au juge, dans son arbitrage, entre deux droits antagonistes, de donner un poids particulier à la liberté de la création. Pourtant, la prise en compte du contexte peut permettre à ces mêmes juges de faire disparaître l'atteinte. Le contrôle de proportionnalité n'a plus lieu d'être, l'atteinte n'est pas constituée. Aucune magie, aucun artifice derrière cette disparition de l'incrimination, mais la prise en compte nécessaire du contexte pour apprécier un contenu. Si un écrivain à des propos problématiques juridiquement dans un plateau de télévision. Le droit doit intervenir et sanctionner. Si ce même écrivain ou un autre écrivain fait dire à un personnage de roman ces mêmes propos, l'écrivain ne parlant pas au travers de son personnage, il est possible que le droit n'ait pas à intervenir. On comprend que la condition de cette disparition de l'incrimination repose sur l'effectivité du pacte fictionnel. Il faut quoi ? Il faut que le lecteur comprenne que ça n'est pas l'écrivain qui parle, mais que c'est son personnage. Il ne s'agit pas simplement pour l'auteur d'écrire « ceci est une fiction », il faut que le lecteur comprenne la nature fictionnelle du texte. Et ça ne marche pas toujours. Tel n'est pas le cas lorsqu'un journaliste célèbre crée un personnage fictif vivant exactement les mêmes événements que son double réel, ce dont témoigne la presse à scandale. Là, il ne peut dès lors révéler l'intime de sa compagne au travers du prétendu double fictif dans le roman. Tout le monde reconnaît la compagne dans le roman. Tel n'est pas non plus le cas lorsqu'un animateur vedette entonne « Cassé du noir » devant Jean-Marie Le Pen hilar sur une chaîne télévisée. L'absence de second degré, nous dit la Cour de cassation, l'absence de second degré laisse exister l'atteinte. En revanche, lorsque Aurel San rappe, il n'est pas son personnage, nous dit la Cour d'appel de Versailles. Tout comme quand Houellebecq écrit, le rappeur et l'écrivain, et je reprends les mots de Stendhal, promènent leur miroir sur la grande route et reflètent la fange des bourbiers de la route. Ils ne sont pas les miroirs d'une France raciste et championne des féminicides. Ils ne sont pas les Français, ils ne sont que les miroirs de cette France et ils ne sont pas les Français qui commettent ces actes. Et donc, lorsqu'ils les décrivent, si le pacte fictionnel est compris, il n'est pas nécessaire d'incriminer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du pacte fictionnel, c'est parfois la nature artistique même de l'œuvre qui exclut le jeu du droit pénal. Une œuvre artistique ne serait alors peut-être pas pornographique. Deux affaires littéraires, pogrom, plateforme, pogrom de Burkel, plateforme de Houellebecq, et les juges nous disent que ces œuvres ne sont pas pornographiques parce qu'elles ont une valeur littéraire et artistique. L'art chasserait la pornographie. Et on sait d'ailleurs qu'en matière de classement de films, l'intention artistique peut exclure le classement X. Allons voir du côté des États-Unis, Les Amants de Louis Malle, décision de la Cour suprême en 1956. La Cour suprême nous dit qu'un contenu sexuel qui a une valeur artistique ne peut être qualifié d'obscène. Loin d'être une généralisation d'exemples épars, le Code pénal suisse consacre explicitement à son article 197, paragraphe 9, en nous disant « les objets et représentations présentant une valeur culturelle ne sont pas de nature pornographique ». Donc pour nos voisins suisses, une image a priori pornographique ne le serait pas si elle possède une valeur culturelle. Et donc, la question est la suivante, est-ce que cette absorption du pornographique par l'artistique est une création de la loi de nos voisins suisses, ou est-ce que c'est une réalité ontologique qui précède l'intervention législative et que alors le juge pourrait, devrait consacrer ? Vous l'avez compris, après le comment, il faut s'intéresser au pourquoi. Prenons une œuvre que nous connaissons tous, L'origine du monde de Courbet. Que voit l'algorithme de Facebook ? Une image pornographique. Et l'algorithme de Facebook résilie la diffusion du compte de l'internaute. Le visiteur d'Orsay, il voit un chef-d'œuvre du XIXe siècle. L'erreur de l'algorithme est de ne voir que l'image, sans prendre en compte son origine et sa destination. À l'instar d'un texte, une image peut changer de nature en raison de son contexte. Un instant, reprenons Aristote. Aristote nous dit, qu'est-ce qu'une chose ? Eh bien, une chose, c'est l'interaction de quatre causes, matérielle, formelle, efficiente et finale. De Molombe, pour rester avec les juristes, nous dit la même chose. Qu'est-ce que la substance d'une chose ? L'interaction de trois causes, la forme, la matière, la destination. Et donc, les livres de droit ont comme classique exemple, la bûche n'est pas un piquet, pourtant ce sont la même matière et la même forme, mais ça n'est pas la même destination. Et cette même bûche, peut-être pourrait-elle devenir une œuvre d'art choisie par un artiste de Land Art. Ces trois objets possèdent la même forme, la même matière, mais la destination est différente. Changer la destination d'un objet peut en changer la nature. C'est d'ailleurs, je ne vais pas m'étendre sur des questions d'art contemporain, mais ce que peut nous dire Duchamp avec le ready-made. Voilà un objet utilitaire dont on change la destination et il peut devenir une œuvre d'art. Nelson Goodman, finalement, nous dit la question n'est pas de savoir qu'est-ce que l'art, il nous dit la question est de savoir quand. Quand y a-t-il art ? Et je le cite, « Normalement, la pierre n'est pas une œuvre d'art tant qu'elle est sur la route, mais elle peut l'être exposée dans un musée d'art. » Et il renverse, d'autre part, un Rembrandt peut cesser de fonctionner comme œuvre d'art si on l'utilise comme couverture pour remplacer une fenêtre cassée. Il y aurait donc des allers-retours possibles, et le droit suisse ne ferait alors peut-être que consacrer une réalité philosophique dont les juges devraient reconnaître. Évidemment, la question est vertigineuse et on se demande si on peut aller aussi loin. Et on se dit, mais au fond, est-ce que ce ne serait pas une immunité inacceptable au profit de l'art ?
Est-ce que l'excuse de l'art permet tout ? Est-ce que la société est prête ? L'excuse de l'art ne peut pas tout permettre. L'art n'est pas un excuse. De même que nous avons le pacte fictionnel et que le droit réceptionne la réalité de ce pacte fictionnel, eh bien, il faudrait s'interroger sur la réalité d'un pacte artistique. Et la réalité d'un pacte artistique suppose, à minima, au début, de pouvoir parler d'une œuvre. Or, nous avons dans le champ du droit une matière, le droit d'auteur, qui nous dit ce qu'est une œuvre. Peut-être devrions-nous prendre en considération les règles du droit d'auteur pour déterminer à minima si nous avons une œuvre. Cela permettrait d'éviter des débats sur le mérite. Est-ce que c'est de l'art ou pas ? Cela permettrait aussi d'exclure certains objets qui se revendiquent d'une liberté artistique et qui pourtant ne le peuvent pas. Je pense à une exposition qui a fait l'objet d'une décision ici, Body Art. Je pense à un débat aujourd'hui sur du porno hardcore et un contentieux pénal où les producteurs se prévalent d'un excuse artistique. S'il n'y a pas de choix libre et créatif, il n'y a pas de possibilité d'un excuse artistique. Mais au-delà de cette exigence minimale, le pacte artistique suppose que le public comprenne et partage la nature artistique du contenu. Et je crois que c'est fondamental d'avoir en tête que finalement, c'est ce contrat qui va se créer et cette compréhension nécessaire entre l'institution qui diffuse et le public qui réceptionne. Le droit nous enseigne depuis longtemps que la sanction d'une affiche dans la rue et d'un film et du contenu du film n'est pas la même. On parle de ce colloque singulier que le spectateur va accomplir en allant voir le film. Et le public est réduit. Et la Cour européenne de droit de l'homme ne dit pas autre chose lorsqu'elle nous dit qu'un contenu qui est potentiellement, abstraitement, une apologie au génocide, si elle est dans un poème, eh bien peut-être que l'appréciation est différente parce que c'est adressé à un public différent et à une minorité de lecteurs qui seront sensibles à cette forme particulière. Et donc, cette notion de public cible, les juges recherchent la capacité de ce public à comprendre le message de l'œuvre et à voir une œuvre et non une image pornographique. Alors évidemment, de même qu'il est sans doute difficile, quoi que dise la Cour d'appel de Versailles, pour un jeune public de comprendre le pacte fictionnel d'Aurel San, il est sûrement difficile pour un jeune public aussi de voir dans une photographie de Man Ray représentant une fellation, de voir une œuvre d'art. Et donc peut-être, effectivement, dans ce cas, s'assurer que le public qui regarde soit en capacité de comprendre la nature artistique. Pouvons-nous aller jusqu'à accepter des représentations pédopornographiques ? Et l'on pense aux frères Chapman ou au petit Paul. L'art peut-il représenter la fange la plus odieuse de notre société ? S'il représente, s'il n'est que le miroir, et nous parlons alors de texte, de dessin, à mon sens, oui. Si l'artiste ne représente plus, mais qu'il est la création du mal, et je pense évidemment à des images avec des personnes, là, évidemment, l'excuse de l'art, qui n'est pas un excuse, mais le pacte artistique, ne pourrait pas sanctionner, et le droit doit les sanctionner. Et pour conclure, Nelson Goodman nous dit « un objet peut être une œuvre d'art à certains moments et non à d'autres », et en lien avec une discussion que nous avions avant de préparer ce colloque, le tableau de Myriam Khan exposé au Palais de Tokyo est très certainement une œuvre et non un contenu pornographique. Ce tableau exposé dans les réseaux sociaux jusqu'à la nausée, peut-être que ceux qui l'exposent dans les réseaux sociaux jusqu'à la nausée, eh bien alors, le décontextualise et peut-être alors, comme le dit Goodman, il pourrait changer de nature.
Merci, merci beaucoup pour cette première intervention qui constitue, je crois, vraiment une très belle entrée en matière en présentant certains enjeux phares de la liberté d'expression artistique et notamment cette complexe logique du pacte fictionnel qui est souvent au cœur des débats juridiques en ce domaine. Alors, il nous a paru nécessaire de procéder ensuite un très rapide panorama des règles de droit pénal qui viennent limiter la liberté d'expression artistique afin de poser complètement les bases juridiques utiles à la compréhension des discussions sur ce sujet. Et je laisse donc tout de suite la parole à la professeure Agathe Lepage pour quelques minutes sur ce thème en la remerciant d'avoir accepté de se prêter à cette petite synthèse qui nous sera bien utile.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chère Blandine, un topo très rapide, peut-être plus généralement sur les rapports entre le droit pénal et la liberté de création artistique, parce que on vient de l'évoquer à juste raison, et j'y reviendrai dans un instant, le droit pénal peut en effet restreindre la liberté de création artistique, mais il vient également la protéger d'une façon qui révèle une ambivalence qui, à vrai dire, est tout à fait classique dans les rapports qu'entretient le droit pénal avec les droits et libertés à caractère fondamental. Lors de la réforme du Code pénal, entrée en vigueur en 1994, a été incriminée l'entrave à diverses libertés, notamment la liberté d'expression, la liberté de réunion, c'est l'article 431.1 du Code pénal. Il a été modifié par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, loi qui énonce dans son article premier que la création artistique est libre et qui, dans la foulée, énonce que la diffusion de la création artistique est libre. Et dans un même mouvement, cette loi du 7 juillet 2016 a étendu le domaine de l'article 431.1 du Code pénal, qui depuis lors incrimine spécifiquement l'entrave à l'exercice de la liberté de création artistique d'une part et l'entrave à la liberté de la diffusion de la création artistique d'autre part. Mais pour quel résultat ? Un résultat qui me paraît essentiellement symbolique. L'extension de l'article 431.1 du Code pénal, à laquelle a ainsi œuvré la loi du 7 juillet 2016, opère un alignement de la liberté de la création artistique et la liberté de la diffusion de la création artistique sur les autres libertés qui étaient déjà protégées sur le fondement de ce texte. C'est un symbole qui, certes, n'est pas négligeable. C'est le symbole de l'importance que le législateur veut reconnaître à ces libertés qu'il place sur le même pied que les libertés précédemment protégées. On voit ici le droit pénal qui joue un rôle normatif en consacrant, en adoubant une valeur sociale protégée. Mais une consécration symbolique au sens où la portée pratique de cette extension de l'incrimination de l'entrave n'est pas significative. L'incrimination de l'entrave à l'exercice de la liberté d'expression paraissait déjà suffisante pour réprimer des actes qui consistent depuis 2016 en des atteintes à la liberté de création artistique. La preuve en est un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juin 2017 au pourvoi, numéro de pourvoi 16-83-680, où avait été réprimé comme constitutif de l'entrave à la liberté d'expression des actes destinés à perturber une représentation théâtrale, ce qui aujourd'hui serait qualifié d'entrave à la liberté de diffusion de la création artistique. Et puis par ailleurs, le législateur, lorsqu'il était intervenu, avait eu en vue des actes qui avaient fait parler d'eux dans les médias, des actes de destruction ou de dégradation d'œuvres d'art. Mais l'incrimination de l'article 431.1 du Code pénal ne correspond pas nécessairement à ces actes, puisque ce délit n'est pas voué à réprimer n'importe quelle atteinte à une œuvre d'art. Pour être constitutive d'une infraction, au sens de cet article 431.1, l'entrave doit être commise soit au moyen de menaces, soit au moyen de violences, mais encore faut-il qu'elle ait été concertée, ce qui en fait une infraction collective. Les actes donc doivent avoir été commis par au moins deux personnes. Par conséquent, si une personne isolée détruit une œuvre d'art qui lui déplaît, elle ne commet pas ce délit d'entrave à la diffusion de la création artistique. Pour autant, l'acte n'échappera pas au droit pénal, car il relèvera très classiquement des qualifications de destruction, dégradation et détérioration volontaire qui sont constitutives d'infractions contre les biens, mais on voit alors que ça n'est pas la même valeur sociale qui est protégée. Ça n'est pas reconnu alors comme une atteinte à la liberté de création artistique. Donc le droit pénal consacre et protège la liberté de création artistique par l'incrimination de son entrave, mais il peut aussi, dans un renversement de la perspective, être amené à la restreindre. Et les propos du professeur Trépose ont parfaitement montré que ces limites peuvent être extrêmement variées, de sorte qu'il m'appartient seulement, en complément, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, d'apporter quelques observations sur deux limites bien particulières, celles qui ont spécifiquement pour objet la protection des mineurs, les incriminations des articles 227-23 et 227-24 du Code pénal, dont la ratiologie est différente, mais qui sont l'un et l'autre de ces textes, destinés à une protection maximale du mineur. Et c'est pour cela qu'inévitablement des conflits sont de nature à surgir avec la liberté de création artistique. L'article 227-23 du Code pénal incrimine de nombreux actes, notamment la diffusion, la détention, des actes qui portent sur l'image.